Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Les Acadiens l'ont consacré personnalité du siècle. Son rôle au Nouveau-Brunswick fut immense, sa ténacité impressionnante. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Louis Robichaud.
Les foules partout, à tous les soirs, ça augmentait, puis c'était de plus en plus enthousiaste, puis on dirait que les gens étaient plus convaincus de la victoire libérale que je l'étais moi-même. Ça m'enthousiasmait moi-même. Ça me donnait le courage, ça me donnait le désir d'entretenir les foules de plus en plus. Puis, la journée même des élections, j'ai pensé, on va gagner l'élection.
À propos de Louis Robichaud, dans le documentaire de l'ONF qui lui fut consacré en 1989. Père de la Révolution acadienne, figure emblématique des francophones du Nouveau-Brunswick, Louis Robichaud a marqué de façon indélébile l'histoire de la province. Premier ministre de 1960 à 1970, il a réussi une transformation en profondeur que l'on ne croyait plus possible au 20e siècle. Avec lui, les francophones se débarrassent enfin de leur complexe d'infériorité et peuvent espérer atteindre l'égalité. Son programme de chance égale pour tous marque un tournant. Mais la tempête qu'il devra traverser pour le faire adopter est féroce.
Nous avons, comme Parti libéral, un record duquel nous pouvons être fiers. Depuis 1960, nous avons accompli des choses extraordinaires. Au point de vue éducation, au point de vue industrialisation, au point de vue développement de nos ressources naturelles, c'était terrible. Lorsqu'en voyageant à travers la province, on voyait une petite école, tout petite, et on constatait qu'une maîtresse d'école enseignait 8 grades et souvent à une centaine d'élèves. Une maîtresse d'école. Mais si les parents de ces enfants-là vivaient à 5 000 ou à 10 000 de là, oh, eux autres avaient une magnifique école. Ça, c'était pas de l'égalité. Ça, c'était pas de la chance égale. C'est ça qu'on a voulu corriger. C'est ça qu'on a corrigé dans le comté de Westmoreland et dans la ville de Moncton et dans tout le reste de la province.
Discours de Louis Robichaud, 14 octobre 1967. L'égalité, l'éducation, la chance pour tous, trois thèmes qui vont marquer les années Robichaud. Ah, pour en parler, quelqu'un qui l'a bien connu, son biographe, mon ex-patron Michel Cormier, ancien journaliste à Radio-Canada, ex-directeur de l'information. Il a publié en 2004 « Louis Robichaud, la révolution acadienne » aux éditions Le Méac. Bonjour Michel.
Bonjour Maxime.
Merci d'être là. Personnalité du siècle chez les Acadiens Nouveau-Brunswick, vous-même, vous êtes un fier Acadien, vous l'avez connu, vous lui avez consacré un ouvrage. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ou pour les Acadiens?
Ben, c'est celui qui a tout changé, qui a ramené un sens de fierté, de dignité, d'égalité aux Acadiens du Nouveau-Brunswick. Et c'était aussi un ami de ma mère, parce qu'il est né dans le même village de Saint-Antoine-de-Kent. Alors, c'était un peu un cousin pour nous, si on veut, mais c'était le petit avocat de Saint-Antoine qui, contre toute attente, a réussi à prendre le pouvoir et à changer la vie des gens. Juste une anecdote, ma mère qui est enseignante et qui avait enseigné dans ce genre de petite école dont parlait Louis Robichaud,
oui.
Du jour au lendemain, avec le programme d'égalité sociale et la syndicalisation des enseignants, a vu son salaire doubler, à tel point qu'elle pensait qu'il y avait une erreur sur son chèque de paie. Alors, elle téléphone au ministère pour dire « Je crois que vous avez fait une erreur ». Ils ont dit « Non, madame, c'est votre nouveau salaire.
Ah, » oui.
Et c'est le même salaire que tout le monde dans la province.
Ça marque les esprits, bien sûr. Hein?
Ouais.
Parlons de ses origines. Donc, vous dites petit village à l'origine. Bon, on n'était pas destiné à une carrière politique tout de suite. Avocat, hein, d'abord. Qu'est-ce qui le mène en politique?
Il y avait... Tout jeune, il voulait faire de la politique.
Ah, il voulait.
Tout jeune. Dès l'âge de 12 ans, il prenait sa bicyclette pour aller dans les villages, pour voir les politiciens faire des discours lors des campagnes électorales. Bon, ça venait un peu de la famille, parce que son père était abonné à 3 ou 4 journaux, y compris Le Soleil de Québec. Donc, ça parlait politique beaucoup. Son père était organisateur politique. Mais au-delà de ça, c'était aussi un désir de servir, enfin... le peuple et de surtout de sortir les Acadiens de cette spirale économique qui était toujours vers le bas. Presque toute sa famille, finalement, est allée travailler aux États-Unis. Sa mère est née là. Et les Acadiens étaient toujours pris entre l'économie qui marchait pas très bien chez nous et l'idée d'aller faire des sous aux États-Unis. Et il y avait toujours ce va-et-vient sans vraiment réussir à s'ancrer dans une réalité économique qui les servait. Alors, c'est au départ ce qui a motivé Robichaud, le souvenir de la Grande Dépression où les voisins venaient mendier des restes de table à la maison. Enfin, des choses comme ça qui étaient très fortes.
Oui. Qui l'ont marqué assurément. Donc, il va étudier le droit, il va étudier à l'Université Laval, où il va faire des rencontres déterminantes parce qu'il y a... Évidemment, on est avant la Révolution tranquille au Québec, mais il y a un bouillonnement à l'université, là.
Oui, c'est le même Creuset que ceux qui ont fait la Révolution tranquille. Mmh. Il a étudié avec Georges-Henri Lévesque, le père spirituel de la Révolution tranquille à l'École des sciences sociales de l'Université Laval. Mais au-delà de ça, c'était pas simplement les études ou l'architecture intellectuelle qui l'intéressaient. Il savait que pour faire ces réformes qui étaient issues de ce ferment de l'Université Laval, ça lui prenait des techniques oratoires. Oui. Alors, souvent, il séchait les cours pour aller observer les débats à l'Assemblée nationale, où il y avait Adélard Godbout qui en décousait avec Maurice Duplessis. Alors, pour lui, c'était aussi important d'observer la technique, mm-hmm. un peu comme Hemingway qui observait les matadors en Espagne pour découvrir un petit peu la science du discours politique, de l'art oratoire, de l'art de convaincre, parce que sans cette capacité de convaincre les gens d'idées nouvelles, ça n'aurait pas marché, finalement.
Oui, mais ça va marcher parce que, bon, il va se lancer en politique. Alors, 1960, et le fait, sans doute, d'avoir observé, et il a certainement un talent naturel de tribun, on l'a entendu, rapidement, il va se faire remarquer. Il faut dire aussi qu'en 1960, cette campagne électorale se joue à la télévision, ce qui est relativement nouveau à l'époque. Et il a donc des qualités. Il passe bien à la télé. C'est ce que nous raconte ici Edward Béliveau, son organisateur de campagne, dans le documentaire de l'ONF qui lui est consacré.
C'était la première fois que la télévision couvrait une élection au Nouveau-Brunswick, à ma connaissance. Une télévision plutôt rudimentaire, mais une télévision tout de même. Je ne sais pas combien de téléviseurs il y avait dans la province à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais étonnamment, Louis s'est adapté très rapidement. Il passait très bien à la télévision. Il avait peut-être paru une ou deux fois avant la campagne électorale, ou quelques fois. Quand je suis arrivé, certains faisaient des commentaires. Comment crois-tu que ce petit pêcheur français va se débrouiller à la télévision? Il ne fait pas le poids. Ce genre de choses-là. Ah, je répondais, à mon avis, il se débrouille très bien dans les studios.
C'est pas un détail anodin, surtout pour le journaliste télé que vous êtes.
Non, pas du tout. Et ce que Robichaud avait compris rapidement, c'est que quand on est dans ton studio, on ne doit pas projeter comme si on faisait un discours dans une salle. Mm-hmm. Alors, Robichaud avait d'instinct trouvé cela, parce qu'effectivement, quand on entend ces discours, c'est un style oratoire un peu ronflant, un peu très, très traditionnel. Ça a l'air du vieux style de politique. Mais à l'époque, il avait compris qu'à la télé, il fallait parler d'une façon beaucoup plus intime aux gens qui nous écoutent.
Ce qu'il va faire, assurément. Sur quelle base, donc, il se fait élire en 1960? Parce que c'est une surprise quand il se fait élire.
Tout à fait. Personne ne pensait qu'il se ferait élire, même les Acadiens qui l'appuyait à la course au leadership. Il y en a beaucoup qui disaient « on votera pour toi au premier tour en sachant que tu vas perdre au deuxième ». Alors, il a réussi à franchir ces étapes. Mais l'enjeu qui a galvanisé la province à l'époque, c'était la taxe sur l'assurance hospitalisation. Alors, c'était une taxe où chaque famille, sans égard à son revenu, devait payer 50 $ par famille, plus 25 $ par adulte qui habitait dans la maison. Alors, ça défavorisait les familles pauvres d'abord, mm-hmm. mais aussi celles qui travaillaient sur la terre et où les enfants restaient travailler sur la terre, qui se trouvaient souvent à payer beaucoup plus cher que le propriétaire de la poissonnerie ou du magasin général ou d'autres commerces. Alors donc, Robichaud a réussi à s'emparer de cet enjeu et en faire l'enjeu de l'élection. Et c'est ce qui lui a permis de remporter l'élection en 60 contre toute attente. Et c'était déjà précurseur du genre d'enjeu qui ferait la base de son programme de chance égale pour tous.
Mmh. Ben justement, son fameux programme chance égale pour tous. Comment on peut le résumer, ce programme-là?
Ben, écoutez, c'est une révolution totale de la façon dont les provinces étaient gérées, pas seulement le Nouveau-Brunswick. À l'époque, c'était les comtés qui s'occupaient de tout, de l'éducation, de l'hôpital, des hôpitaux, mm-hmm. des services de santé, de la justice. Alors, chaque comté était responsable de sa base fiscale, devait ramasser suffisamment d'argent pour financer les écoles, les hôpitaux, les prisons, si on veut.
Oui.
Et à ce moment-là, il y avait une disparité totale. Et c'était une spirale épouvantable parce que plus le comté était pauvre, moins il y avait de revenus, plus il taxait les gens, moins les gens étaient capables de payer. Alors, à la limite, ce n'était plus tenable. Et pour Robichaud, il y avait une image qui symbolisait finalement cette inégalité. C'était encore... c'était cette fille de 18 ans, qui enseignait dans une école de 6 ou 8 grades, comme il dit, dans le nord de la province, qui, l'année précédente, avait échoué sa 8e année.
Ah oui.
Mais c'est elle qui enseignait, en septembre, tous les jeunes du village, parce que le comté n'avait pas les moyens, ou le village, de trouver ou de payer suffisamment un enseignant qui puisse faire le travail convenablement. Alors...
L'image est forte, parce qu'il faut savoir aussi, hein, puis vous l'avez dit, il y a des disparités régionales. Le nord de la province est beaucoup plus pauvre que le sud. Donc, son fameux programme, bon, c'est un programme qui s'inscrit dans un courant hein, en Occident, social-démocrate, transformation radicale aussi pour l'époque, qui va inquiéter dans les milieux privilégiés. On va l'écouter, Louis Robichaud, à l'émission Caméra 66.
On dit dans certains milieux que votre législation favorisera davantage les régions françaises. Est-ce que vous pourriez élaborer?
Nous avons, dans les régions françaises, comme dans les régions anglaises, de la pauvreté, comme ça existe dans tous les pays. Alors, il n'y a pas, ce n'est pas une question de groupe ethnique du tout. C'est une aide que nous voulons apporter à toute la province, à tous les gens de la province qui ont besoin de cette aide, qu'ils soient anglais ou français ou n'importe quoi, ça importe peu.
Monsieur Robichaud, vous avez parlé de centralisation des pouvoirs, des services publics, de l'autorité en matière de taxation, centralisation dans la capitale provinciale. Est-ce que l'on peut qualifier ces mesures de mesures socialisantes?
Pas du tout. Dépendamment de ce qu'on veut dire par mesures socialisantes, il va y avoir une certaine égalité, mais ce n'est pas du socialisme.
Donc, on l'entend ici par les questions, hein, le spectre d'un programme socialiste, évidemment, ça ne plaît pas aux élites. Comment ça va être reçu par les élites anglophones, ce programme-là?
Oh, ça a très mal été reçu, et même les maires des villes anglaises refusaient de recevoir la commission Byrne, qui était cette commission itinérante qui faisait le travail préparatoire au programme d'égalité sociale. Il y a eu aussi Irving, évidemment, qui était le grand industriel de la province, qui profitait, lui, de ses relations avec les comtés où il y avait des concessions fiscales pour la coupe du bois ou pour ses commerces. Alors donc, ça a été une opposition féroce de tous les instants, et surtout qu'Irving contrôlait totalement la presse anglophone. Il était le propriétaire de tous les grands journaux de la province. Donc, Robichaud, son problème, c'est qu'il ne devait pas seulement convaincre les Acadiens, il s'était à peu près convaincu, mais il fallait qu'il convainque aussi les anglophones de la province.
Oui, ben oui.
Sans les médias anglophones de son côté, sans l'appui des maires, sans l'appui même des universitaires anglophones de l'Université du Nouveau-Brunswick. Donc, il a dû sortir de Fredericton, de la capitale, de l'Assemblée législative avec ses ministres, et aller dans les villages expliquer ses réformes un à un pour s'assurer de l'appui. Mais ça a été vraiment une guerre épouvantable. Il y a eu des menaces de mort, il y a dû avoir de la protection de la police, menaces d'enlèvement de ses enfants, enfin... C'était très, très difficile.
Oui. Bien, on le sent que ça joue dur. En 1967, lors de l'élection, les couteaux voient le bord. On va l'entendre ici, Louis Robichaud, qui se présente comme le représentant du peuple. Hein, une attaque à peine voilée à la famille Irving, 6 février 67 à la télévision.
Et je termine en vous disant ceci. Et je le dis avec toute la conviction que je puisse commander que le Parti libéral c'est le parti du peuple. Le parti conservateur, c'est le parti des gros intérêts financiers.
Monsieur Robichaud, justement, est-ce que vous avez déclaré il y a quelques instants que le parti conservateur était le parti des intérêts financiers, des gros financiers? Est-ce que c'est le cas au Nouveau-Brunswick davantage qu'ailleurs?
Peut-être pas plus qu'ailleurs. Peut-être même plus qu'ailleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'étude approfondie de la situation dans les autres provinces. Mais ici, il n'y a pas le moindre doute. Les intérêts financiers sont liés au Parti conservateur.
Est-ce que vous pensez là à M. Irving?
Je ne pense à personne en particulier.
Bon, personne en particulier, mais on imagine qu'il y avait quelque part dans la tête M. Irving, hein, la famille Irving qui amenait large. Évidemment, les années Robichaud, c'est aussi la création de l'Université de Moncton. C'est majeur. Pourquoi c'est si important pour lui, ça?
Bien, c'est parce qu'il n'y avait pas la possibilité pour les Acadiens d'avoir une éducation post-secondaire digne de ce nom. Il y avait quelques collèges qui étaient dirigés par des congrégations religieuses, un peu comme au Québec hein, à l'époque.
Oui.
Mais ça ne faisait pas le poids. C'est pour ça que lui et toute cette élite acadienne qui a fait cette révolution-là, parce qu'il y en avait d'autres aussi qui ont mis au monde les caisses populaires, enfin les coopératives et d'autres, sont allés étudier au Québec. Parce qu'il n'y avait pas cette architecture universitaire, intellectuelle disponible au Nouveau-Brunswick. Alors pour Robichaud, c'était d'une part d'améliorer l'éducation universitaire pour les Acadiens, mais aussi leur donner accès à cette éducation-là pour éviter qu'ils deviennent, comme leur père, leur mère, des travailleurs, enfin saisonniers, des gens de petits boulots dans les villages qui doivent s'exiler aux États-Unis de temps en temps pour subvenir à leurs besoins. Alors, c'était une façon de garder les jeunes dans la province.
Oui. Et ça passe aussi par la reconnaissance officielle de la langue.
Hein,
ça,
oui,
c'est
c'était
un accomplissement exceptionnel.
Tout à fait. Avec le programme d'égalité sociale, la chance égale pour tous, avec la création de l'Université de Moncton et la loi sur les langues officielles, c'est vraiment l'œuvre maîtresse de Louis Robichaud.
En même temps, on dit, oui, fier francophone, certainement, mais aussi fier fédéraliste, hein, parce qu'à la même époque, bon, il y a un bouillonnement de la province voisine au Québec, et lui s'oppose vigoureusement à l'idée de la souveraineté du Québec. Et d'ailleurs, il va réagir très, très, très durement à la visite du général de Gaulle, son fameux « Vive le Québec libre ». Pourquoi il est à ce point choqué par ça?
Ben, c'était un fédéraliste convaincu. Alors, pour Robichaud, le succès, le succès aussi politique qu'il a eu, c'était aussi de ce qu'on appelait la politique du bon ententisme avec la communauté anglophone. Alors, c'était un fier Acadien nationaliste, oui, mais en même temps, qui savait qu'il devait s'accommoder des intérêts des anglophones. Et son programme d'égalité sociale, d'ailleurs, était très bien reçu dans les villages pauvres. Mmh. Alors, c'est pour ça qu'il ne s'est jamais dit le premier ministre des Acadiens.
Oui.
J'ai été élu par le peuple, mais ça comprend tout le monde. Et ça avait à l'époque créé tout un émoi parce que la patente, enfin l'ordre de Jacques Cartier, là, ce gouvernement parallèle des francophones, il y a eu ça aussi au Québec et ailleurs dans les régions francophones, il avait dit, écoute, ils avaient réuni Louis après son élection, ils ont dit, écoute Louis, il y avait l'archevêque de Moncton en tête, tu vas faire toutes les réformes dans ton premier mandat parce que tu vas être battu aux élections, de toute façon.
Ah oui.
Alors il dit non. Et surtout sous prétexte qu'il fallait corriger les injustices envers les Acadiens. Il a dit non, seulement je vais me faire réélire, mais je vais travailler pour tous les néo-brunswickois. Alors ça venait de cette conviction-là, si on veut, mais en même temps, l'idée pour lui que le Québec se sépare du Canada, c'était impensable. C'était impensable parce que ça aurait été la fin du Canada francophone. Et il y avait aussi de très bons rapports avec Mike Pearson, avec Le Sage. Et ça, et il dit même qu'il avait menacé, il avait averti Le Sage de se méfier de René Lévesque. C'était un séparatiste.
Ah oui, déjà. Alors, déjà
à ce moment-là.
Il voyait la menace.
C'était viscéral aussi chez lui, c'est sûr.
Oui. Ben, c'est viscéral. En tout cas, on va l'entendre ici parce qu'il réagit très, très, très fortement en 1967.
Est-ce que vous avez pris connaissance de la déclaration du général de Gaulle en France?
Évidemment.
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est terrible pour un président d'un pays étranger s'introduire dans les affaires domestiques de notre pays. Si la France veut déclarer la guerre au Canada, eh bien qu'elle le fasse. Mais nous nous défendrons. Et puis je ne pense pas que les Canadiens de langue française ni les Canadiens de langue anglaise veulent cette espèce d'intrusion de la part d'un gouvernement étranger.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, que le gouvernement fédéral rompe les relations diplomatiques avec la France?
Non, je ne pense pas que ce soit aussi grave que ça. Cette déclaration était venue d'un homme sain d'esprit, peut-être. Mais le général de Gaulle est rendu à un stage où il devrait démissionner comme président de la France.
Oui, réaction courroucée. Hein, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait.
Donc, des relations avec la France qui seront assez tendues par la suite. En terminant, dites-moi, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. Peut-être que ça va vous faire grincer un peu des dents en tant qu'Acadien, mais la Révolution acadienne, ça nous ramène à la Révolution tranquille. Ce sont deux événements simultanés. Ça se passe en même temps. Il y a des similitudes claires, non?
Tout à fait. Ça s'inscrit dans le même giron, si on veut, dans la même mouvance. Tout à fait. Là-dessus, Robichaud n'avait pas de problème avec ça. C'était avec ceux qui voulaient aller plus loin et faire du Québec un pays indépendant. Mais tout à fait. Et je pense que c'est un des facteurs les plus importants pour comprendre le moment Robichaud, comme on l'a appelé chez nous. C'est que l'origine venait de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval et de son exposition à Georges-Henri Lévesque à ses nouvelles idées qui arrivaient sur la gouvernance. L'égalité, enfin cette social-démocratie qui émergeait au Québec et ailleurs. Et ça a été vraiment le point de départ et je pense une des choses plus importantes. Une grande différence, c'est qu'au Québec, il y avait un consensus sur les besoins de ces réformes, alors qu'au Nouveau-Brunswick, quand il a lancé son programme d'égalité sociale, il était à peu près seul.
Ah oui,
Le combat a été d'autant plus difficile que c'était un combat solitaire, mais Robichaud avait cette capacité, cette conviction, cette capacité de persuasion, ce leadership pour faire adopter enfin cette réforme qui contenait, écoutez, 130 projets de loi qu'ils ont écrits et adoptés en moins de 2 ans. Alors, c'est dire l'ampleur de la tâche et à quel point c'est important et à quel point c'était aussi nécessaire.
Oui. Et pourquoi il sera battu en 70? C'est quoi? C'est l'usure du pouvoir, on imagine?
C'était l'usure du pouvoir. Les gens en avaient trop des réformes Robichaud. Ça allait trop vite, si on veut. Ils en faisaient trop. Et il y a une anecdote. Il y avait un travailleur de la région de Kedgewick, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui avait dit « Je vais voter pour les conservateurs parce qu'avec Robichaud, oui, il m'a donné un emploi, mais il m'a donné un emploi à 100 000 de chez nous. Alors, je veux travailler chez nous. » Et il y avait aussi l'usure, il y avait cette contestation étudiante aussi des jeunes nationalistes acadiens qui reprochaient sa politique de bon ententisme avec les anglophones. Et il y avait trop de promesses brisées, l'usure du pouvoir, finalement.
Oui, oui.
Et Robichaud, je pense, après 10 ans de rythme effréné, n'y tenait plus beaucoup. Il a fait une dernière campagne, presque en espérant la perdre, parce qu'il serait libéré de cette pression du pouvoir.
Ouais. En tout cas, un personnage marquant, fascinant. Hein? Petit Louis, comme on le surnommait affectueusement. Louis Robichaud, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1960 à 1970. Mon invité, je rappelle, Michel Cormier, les journalistes, ancien directeur de l'information de Radio-Canada, auteur d'une biographie qui a pour titre Louis Robichaud, La Révolution acadienne, publiée chez Leméac en 2004. Merci beaucoup, Michel.
Merci, Maxime.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. À une prochaine. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.